France Inter.
Se voir couronner des titres de révélation classique de la Damien, révélation lyrique aux victoires de la musique classique, la soprano Julie Fuchs a étudié au Conservatoire d'Avignon puis au Conservatoire supérieur de Paris. Son premier disque s'intitulait Mélodie de jeunesse, Debussy et Mahler, le second Yes, dédié à l'opérette, et le suivant consacré à Mozart, Amadé. Multi-récompensée aux victoires de la musique, et peut-être plus encore dans quelques jours, la jurée de l'émission Prodige sur France Télévisions tenait en décembre dernier le rôle d'Edwige dans Robinson Crusoe et d'Offenbach. Son dernier disque, Je te veux, sorti chez Sony Classical, entraîne l'auditeur dans l'atmosphère des cabarets de la Belle Époque. Une balade amoureuse dans un Paris marqué par la richesse de sa vie intellectuelle, artistique et musicale. Signalons aussi que notre invité sera bientôt à l'affiche d'Ercole Amante à l'Opéra de Paris, non pas signé Francesco Cavalli, mais Antonia Bembo, élève du premier, dans une mise en scène de Nisha Jones. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Julie Fuchs.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Prendre mon café au soleil ce matin.
Ah, mais c'est bien d'avoir des joies comme ça accessibles.
Accessible, c'est pas si accessible que ça à Paris.
C'est vrai, c'est pas toujours beau.
Mais savourer les choses simples et être reconnaissant des choses simples, c'est important, oui.
Vous y arrivez aisément ou vous vous êtes entraînée ?
Je me suis entraînée et c'était assez facile parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est jouissif.
Alors, j'ai lu que vous adoriez vous déguiser.
Oui.
Comme je lis rarement ce genre d'informations sur les invités, j'aimerais savoir en quoi, en général.
Alors... J'ai commencé par me déguiser très tôt dans ma vie, donc il n'y avait pas vraiment de figure prédéfinie, c'était surtout se servir des foulards, des draps, de tout ce qu'on pouvait pour créer un truc absurde. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est justement que ça ressemble à rien et que ça crée un nouveau personnage, et pas du tout me déguiser en quelqu'un de connu. Ou d'ailleurs, quand je cherche des thèmes pour organiser des soirées, ça ne m'intéresse pas beaucoup de faire des thèmes super-héros.
Alors, vous faites quel genre de thème ?
Pas le thème...
Condiment.
Par exemple, vous serez invité la prochaine fois.
Ah bah moi, je serai en mayonnaise, je pense.
Non, ça serait par exemple, je ne sais pas, un personnage qui fait peur mais qu'on aime. Puis voilà.
Mais là, c'est des personnages qu'on peut reconnaître aisément, comme Frankenstein, Dracula, non ?
Ah, on aime bien Frankenstein ?
Oui. D'ailleurs, Frankenstein, c'est le docteur, sa créature,
Oui. Voilà. Non, enfin, en tout cas, des déguisements qui laissent la porte ouverte à plein de choses.
Donc on peut mettre une passoire sur sa tête, je sais pas, n'importe quoi, en fait.
Ouais.
D'accord.
Avec un accent mis sur la non-binarité.
D'accord. On dit soprano ou soprane ?
Ben en fait, c'est comme tous les mots italiens qui sont dans la musique classique, on peut soit les franciser, donc en disant soprano, soit utiliser le terme d'origine, soprano. Donc les deux fonctionnent en vrai. Disons qu'il faut dire aussi que le milieu de la musique classique est assez international, donc l'utilisation de l'italien permet une forme de consensus.
Julie Fuchs, vous dites que c'est compliqué d'être cantatrice parce que c'est un grand écart entre la puissance absolument nécessaire sur le plateau et l'immense vulnérabilité de l'artiste. Je continue de vous citer, on ne ment pas avec la voix, quand je suis triste ou énervée, je chante moins bien.
Ouais. Alors, il paraît qu'il y a aussi peut-être plus des ténors d'ailleurs, qui chantent mieux quand ils sont énervés.
Ah bon ?
Ouais, ça produit quelque chose, mais c'est peut-être plus particulier aux voix d'hommes et aux voix de ténors qui peut-être ont besoin d'être énervés pour montrer des choses. Mais effectivement, c'est en ça que c'est passionnant et que je pense que ça touche les gens. C'est qu'on n'est pas caché derrière un instrument. Notre instrument, c'est nous. Et c'est mouvant et c'est humain. Et c'est pour ça que c'est horrible et merveilleux.
Mais alors, comment vous faites, par exemple, quand vous êtes affecté pour des raisons personnelles et que vous montez sur scène le soir ?
Alors, ça m'est arrivé, évidemment. Je pratique la méditation, le yoga et différentes formes de pratiques de manière très régulière. Ce qui fait que quand arrive un problème à gérer, on n'est pas le nez contre le mur, quoi. On a quand même des ressources, on a une marge de manœuvre, on a des outils. Après, c'est des questions de nature aussi. Je sais que j'ai des collègues qui gèrent beaucoup mieux que moi. Parce qu'ils arrivent à compartimenter. Moi, je suis pas comme ça. Et je pense que ça aussi, c'est mon côté. Mais voilà, donc il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'on a quand même une routine très forte dans notre journée de représentation. Dès qu'on se lève, on est dans notre routine. Donc ce qu'on va manger, l'ordre dans lequel je fais les choses, à quel moment je prends ma douche, et tous les petits rituels qu'on va mettre en place à l'arrivée du théâtre, le maquillage, la perruque ou la coiffure, quand on met son déguisement, son costume, tout ça nous fait finalement, à chaque fois, c'est un pas vers la distance avec le personnage. Et en fait, la Julie disparaît au fur et à mesure de ces pas-là.
Y a-t-il de la place pour de l'imprévu dans votre vie, si tout est déjà prévu ?
Il n'y en a pas assez.
Pas assez. Et vous mangez...
Mais l'imprévu, il est sur scène aussi, finalement. Mmh. Et c'est tout ce à quoi doit mener cette routine assez organisée. C'est qu'une fois qu'on met le pied sur scène, tout peut arriver. Et on accueille tout ce qui se passe parce qu'en fait, on est comme le roseau et qu'on est bien planté.
I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. Cameras and those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
Julie Fuchs, vous avez reconnu ce qu'on vient d'entendre, c'est Sunset Boulevard. J'adore. De Billy Wilder. Et alors, vous, ce qui vous intéresse au cinéma, pour les personnages de diva, ce ne sont pas les films sur des chanteuses d'opéra, mais plutôt des films comme Sunset Boulevard avec Gloria Swanson, qui, il faut le préciser sans dévoiler l'intrigue, flirte avec la démence dans ce film.
Oui, et c'est ça que je trouve...
Ancienne star du muet qui ne tourne plus.
Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Alors après, quand on parle de diva, de cantatrice, il y a aussi beaucoup d'imaginaire collectif, il y a aussi beaucoup de choses complètement fausses. Donc, de quoi on parle quand on parle d'une diva ? Et c'est aussi pour ça que je suis très prudente avec les films qui parlent des chanteuses, parce que... puis on a quand même des critères techniques très affûtés qui font que c'est difficile d'y croire pour nous que la personne qu'on voit chante. Donc il y a une distance qui est compliquée. C'est compliqué de bien faire un film sur un sujet tellement technique. Mais par contre, l'aspect de l'outrance, de la, vous parliez de démence, mais voilà, de cette chose qui est un peu en dehors de la normalité quand même, même si on est des gens normaux parfois, ça me passionne. Et ça peut se retrouver dans tout. J'ai un maquilleur qui est une diva. Il y a des maquilleurs qui sont des divas beaucoup plus que les chanteurs. Ce sont des personnages, on en connaît tous. Et c'est fascinant.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Julie Fuchs, quand vous étiez petite, vous avez commencé par le violon au Conservatoire d'Avignon, donc vous auriez pu être musicienne plutôt que chanteuse.
Vous faites exprès de poser cette question comme ça ?
Comment ?
C'est une grande... non, c'est une grande private joke entre musiciens et chanteurs, parce qu'en fait, quand on oppose les musiciens chanteurs, ça laisse sous-entendre qu'un chanteur ne fait pas de musique.
Ah bah si !
Voilà. Donc, la formulation qu'on reprend souvent, nous, en tant que chanteurs, c'est instrumentiste ou chanteur.
Bien
parce
sûr.
Que les chanteurs et les instrumentistes sont tous des musiciens. Voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, tout le monde l'a fait et voilà. C'est un peu une blague entre nous récurrente. Est-ce que j'aurais pu être instrumentiste? Je ne suis pas sûre. Parce que d'abord, être violoniste, ça m'inspirait pas du tout. Si ce n'était de jouer dans un orchestre. J'ai adoré jouer en orchestre.
Mais vous adorez le collectif.
Ouais. Et puis, le répertoire aussi. Voilà. Et puis, j'aime le théâtre. Donc, j'aurais été vite frustrée, sans mots et sans mise en scène et sans personnage, bien que, après, on peut aussi voir des dialogues et des personnages dans des musiques sans parole. Mais voilà, je pense que... j'aurais été un peu frustrée d'être uniquement instrumentiste, d'autant que je pense que je suis plus douée pour le chant que pour le violon, mais aussi Par contre, ce qui est intéressant, c'est que très vite, quand j'étais étudiante en violon, ma professeure de violon m'a dit « Je sais pas si tu vas être violoniste, si tu vas faire du violon plus tard, mais tu feras de la musique. »
Julie Fuchs, votre premier choc eut lieu lorsque vous aviez 6 ans lors d'une sortie scolaire avec votre classe de CP à l'Opéra d'Avignon pour une opérette, une version française de la comédie musicale Nono Nanette avec la musique de Vincent Humans et le livret d'Otto Harbach, 1925, la date de création. Et il y a dedans la fameuse chanson Tea for Two qu'on entend là. Le fameux air, pardon, pas la chanson.
Oh, ça marche, c'est de l'opérette.
Oui, mais je fais attention à tous les mots que je dis maintenant. Alors, quand vous alliez à la bibliothèque avec votre mère petite, vous empruntiez des CD d'opérette.
Oui. J'ai une mère qui... et un père, mais bon, plus la mère. À cette époque-là, c'était encore beaucoup les mères qui étaient en charge des activités extrascolaires des enfants. Qui avaient très envie que ses enfants fassent des choses autres que d'aller à l'école. Et donc, elle nous a inscrits au conservatoire. Et enfin, il y avait quand même quelque chose comme ça. Alors, d'ailleurs, pardon, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que la musique, je ne l'ai pas connue au conservatoire, je l'ai connue avant grâce à donc, cette répétition générale ouverte aux classes de CP. C'est hyper important de le dire et de le souligner parce que moi, je suis une fervente adepte de l'opéra pour tous. Je crois sincèrement, parce que je l'ai vécu ainsi, qu'on n'a pas besoin d'éducation spéciale, qu'on n'a pas forcément besoin d'un budget extraordinaire, simplement de bien choisir là où on met les quelques sous qu'on a pour choisir le bon spectacle. Et voilà, j'ai découvert et j'ai aimé l'opéra comme ça. Après, ma mère a un peu utilisé ce filon-là. Il nous a amené à la médiathèque Secano, merveilleux lieu à Avignon, où on avait le droit de choisir des disques de notre choix. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi des disques de Paulette Merval et
Marcel Merguez.
Et
votre, en parlant de votre mère, elle était femme au foyer et maître nageur ou maître nageuse pour arrondir les fins de mois. Alors la question est la suivante, nagez-vous bien?
Très bonne question. Le cordonnier.
Oui, je sais, je pensais à
non,
ça.
En vrai, je n'ai jamais fait de la natation en compétition ou en club, contrairement à beaucoup d'enfants de maître nageur. Par contre, j'adore l'eau et je suis très à l'aise dans l'eau.
Ah oui.
Parce qu'en fait, au lieu de nous faire garder, elle nous amenait à la piscine avec elle et on passait la journée, donc 10h-20h, à la piscine.
Ah oui, donc vous faites plusieurs nages.
Oui, mais à la piscine, on jouait, on ne faisait pas que nager.
Non, parce que moi, je fais la brasse et on dirait un fer à repasser qui nage. Donc je
mais la brasse, c'est pas facile. Mais c'est très bien pour les épaules. Oui, je fais plusieurs nages, mais enfin, ça ne me passionne pas des masses. Par contre, l'eau, c'est clairement un élément. Et alors, c'est très drôle parce que même l'odeur du chlore, j'adore. C'est-à-dire que moi, l'odeur de ma mère, c'est l'odeur du chlore.
Le chlore, j'adore. J'aurais une pub.
C'est-à-dire que pour moi, le chlore, c'est vraiment le parfum de ma mère, quoi.
Et est-ce que quand vous avez fait votre disque Yes, consacré aux opérettes, c'était aussi une sorte de madeleine, comme ça, de l'enfance, les réminiscences?
Oui, clairement. D'autant que j'ai commencé ma carrière avec plusieurs choses, plusieurs événements, mais il y a eu un grand succès au début de ma carrière, en 2013, qui a été Ciboulette, de Reynald Wan à l'Opéra Comique, et qui était un peu aussi une des premières fois que l'opérette revenait d'une manière élégante, d'une manière grand public, moderne, avec une super mise en scène. Et donc c'est vrai que dès que je me suis plongée dans Ciboulette, il y a une espèce d'alignement des planètes où je me dis, bah, en fait, ça me parle, c'est moi, j'aime ce répertoire, contrairement à beaucoup de mes collègues qui avaient tendance à le dénigrer. Et donc c'était très logique pour moi d'enregistrer ce disque, c'était une continuité naturelle.
Est-il vrai, Julie Fuchs, que vous aviez des problèmes de sommeil et qu'on vous a acheté pour cela un disque pour vous aider à dormir sur lequel il y avait Eric Satie, dont on va parler dans quelques instants, mais l'Adagio de Samuel Barber, sublime et désespéré?
Ouais. Et ça reste une œuvre extrêmement intime pour moi. C'est...
Vous vous endormiez sur cette air ?
Ouais. Je ne sais pas si je m'endormais à chaque fois, parce que j'étais
coriace. Parfois, vous songiez à la mort, tout de même.
Non, même pas.
Ah bon ?
Non, non. Non, mais il y a une certaine joie à la mélancolie.
Ah bah, ça dépend.
Ça dépend, mais... peut-être quand on est une diva, on éprouve une certaine joie à la mélancolie.
Oui, peut-être. Vous êtes une diva ?
Je crois pas.
Mais qu'est-ce que c'est une diva finalement ?
En fait, j'aime bien ce mot parce que c'est vrai qu'on l'associe à des attitudes capricieuses. Voilà. Mais en fait, ça vient du mot divin, déesse, dieu. Et je trouve ça,
simplement.
Je trouve ça assez chouette d'être oui, surnommée comme ça.
C'est vrai ?
Non, mais au-delà de ça, je trouve ça assez beau et juste d'associer la voix humaine à quelque chose du domaine du divin. Je trouve ça, ça en dit beaucoup quand même, voilà, sur notre métier.
Je crois que votre rapport à la voix s'est fait dans une voiture entre Meaux et Avignon.
Entre... Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça.
Racontez-nous.
Il s'est fait de plein de manières, mais...
Notamment.
Notamment par ces voyages qui duraient de longues heures. On écoutait beaucoup la radio ou des disques, voilà, des choix de mes parents. Et en fait, pour passer le temps, j'inventais des voix. Je chantais, j'inventais des voix et ça m'occupait. Et c'était une activité presque plus cérébrale que vocale, en fait. Là, c'est la tierce, puis là, je fais la sixte, ça marche. Et sur des chansons qui n'étaient pas toujours passionnantes, mais du coup, ça me faisait passer le temps, quoi.
Alors, je reste un peu dans l'enfance parce que je sais que l'imaginaire est important chez vous et je trouve ça assez réjouissant.
Et on adore les petites filles.
Bien sûr, j'imagine, sauf celles qui crient.
Oh non, si, aussi.
Ah bon ?
Ouais.
Oh, bah.
Surtout dans les trains.
Non, alors là, non, là, je vous arrête.
Non, on aime les petites filles qui s'expriment.
Oui, d'accord.
Voilà.
D'accord, encourageons-les.
Oui.
Oui, c'est vrai, parce que, enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, c'était une époque où on n'encourageait pas trop ça chez les petites filles.
Exactement.
Oui, c'est vrai.
Parce que peut-être que si on les encourageait à s'exprimer plus, elles crieraient moins.
Ah oui. C'est une réflexion à laquelle je vais songer.
Voilà.
Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Qu'est-ce qu'était l'oubliette
dans
votre enfance, Julie Fuchs ?
Vous savez des choses. L'oubliette, c'était la cabane que je m'étais construite dans mon jardin.
Et pourquoi l'oubliette ? Parce que c'est ambivalent.
Bah oui.
C'est à la fois pour oublier et à la fois les oubliettes des prisons dans les cachots.
Ouais. Ouais. À la fois pour que moi j'oublie et à la fois pour qu'on m'oublie.
Mais qu'est-ce que vous désiriez le plus ?
Faire ma vie dans ma petite cabane. On avait un jardin dans un HLM, ce qui est quand même un grand luxe. Donc on était un peu au top du HLM à Avignon. et donc ce jardin, c'était vraiment le... Je me rappelle très bien, je faisais mes devoirs dans le jardin, je faisais tout, je suis tout dehors, j'ai mis être dehors. Et je dormais dans cette cabane.
Vous n'aviez pas peur des insectes ?
Non, alors le citronnelle à fond, hein.
Après la ciboulette, si le
voilà. Non. C'était, j'avais fait une petite boîte aux lettres où je recevais mon courrier.
Et on vous écrivait ?
Mais oui.
Mais qui ?
Ah bah à l'époque, on s'écrivait plein de cartes postales. Les copains de classe, tout ça.
Mais ils venaient les poster eux-mêmes ?
Alors, je leur donnais mon adresse, plus l'oubliette. Et ma mère et mes parents revenaient reposter mon courrier dans la boîte.
Ah oui.
La boîte à chaussures, quoi.
Oui.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous êtes retrouvée dans un chœur européen à l'âge de 14 ans à chanter avec Björk ?
C'est très simple. Avignon était capitale culturelle européenne et il y avait un projet mené par l'Islande qui rassemblait 10 jeunes de chaque capitale culturelle européenne pour une expérience de chœur, de voyage, de tournée avec la participation de Björk. Et moi, j'avais pas vu ça du tout passer. J'ai une copine qui a passé l'audition, qui a été prise et qui m'a dit « Ils cherchent encore des gens, tu devrais faire l'audition ». Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire une audition. Donc j'y suis allée avec mes livres de solfège et l'objectif était clairement de chanter avec Björk. Rien d'autre. Et j'ai été prise et du coup, je me suis retrouvée dans ce projet incroyable qui a dépassé évidemment le plaisir de chanter avec Björk. C'était la première fois que je me retrouvais dans un chœur avec. J'étais une des plus jeunes en plus, donc j'étais très impressionnée et j'ai beaucoup appris. Thank you.
On entend la rêverie 8 de Debussy sur votre premier disque, Julie Fuchs, Mélodie de jeunesse, Debussy et Mahlers, sorti en 2013. Et en 2013, il se passe deux choses. Ce disque sort et vous intégrez pour 2 ans la troupe de l'Opéra de Zurich. Et Louise Morfoise, qui m'a aidé à préparer cette émission et qui s'y connaît terriblement en musique classique, m'a indiqué que les troupes d'opéra n'existent quasiment pas en France, mais que dans les opéras allemands, c'est chose courante.
Oui, c'est une tradition qui n'existe plus en France, qui a existé pendant un moment. Et effectivement, dans tout le milieu, enfin, toute la zone germanique, ça existe. Et c'est lié à une économie de l'opéra. C'est-à-dire que ce sont des théâtres qu'on dit de répertoire, et donc qui jouent pratiquement tous les soirs avec un grand roulement de pièces différentes. Et donc, pour ça, il faut avoir beaucoup de chanteurs qui soient à la maison, quoi.
Julie Fuchs, on vous entend sur votre album Amadée, consacré à Mozart, c'est l'air de Barberine dans Les Noces de Figaro. Et là, j'aimerais parler de l'influence des œuvres que vous interprétez sur votre humeur, parce que vous dites que ça en a de l'influence, et que quand vous travaillez par exemple Wagner, c'est plus facile d'être mélancolique que quand vous chantez du Mozart, et qu'il y a rarement une mauvaise ambiance dans les opéras de Mozart.
C'est vrai. Je pense que c'est le répertoire. Enfin, c'est fou, cet air, je l'ai chanté des centaines de fois, je l'ai entendu encore plus. Et là, j'ai encore le larme aux yeux. C'est sans fin l'émotion que nous donne Mozart. Et je pense que c'est une délicatesse qui nous touche tous quand on travaille sur Mozart. Et quand je dis qu'il nous touche tous, c'est pas que les chanteurs, c'est nos habilleurs dans les couloirs. Il y a quelque chose de très fluide, de très limpide. Et aussi, je pense que ça tient à la structure et au livret sur lesquels a travaillé Mozart, qui sont souvent des opéras qui ont beaucoup de scènes d'ensemble. Et donc, il y a beaucoup de moments où on est tous sur scène réunis. Parce que ça existe aussi les opéras où on a des enchaînements d'air, etc. C'est super. Sauf que ça crée pas tellement de
communion.
Voilà. Et les opéras de Mozart ont été faits pour des troupes, ont été faits pour des compagnies qui jouaient ça ensemble. Et je pense que c'est aussi ça qu'on ressent dans sa musique.
Et alors, justement, puisqu'on parle de communion, on parle aussi d'état de grâce avec la musique, de transcendance. Vous avez chanté à la cérémonie de la réouverture de Notre-Dame. Quel est votre rapport au sacré ?
Il est passé par plein de couleurs. Mais en fait, pour être tout à fait juste, effectivement, le rapport au sacré, il a toujours été présent et il le sera toujours. La manière dont je le vis est en constante évolution. Et je pense que c'est bien, parce que c'est ça qui fait que le sacré ne devient pas dogme et ne devient pas enfermement.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Votre âme est
Julie Fuchs, on entend votre interprétation de la sérénade Avato de Gustave Charpentier sur votre album Je te veux, paru chez Sony Classical, et je crois que le texte est de Verlaine.
Absolument.
Comment avez-vous fait pour procéder au choix des morceaux qui composent cet album, Hommage à la Belle Époque?
Alors le cœur du projet était Eric Satie. Donc je suis partie de lui, de son répertoire, mais aussi de l'homme et l'artiste qu'il était.
Il était un humoriste aussi.
Voilà, il avait beaucoup d'humour. Je pense qu'il avait aussi une grande forme de mélancolie.
Ça va souvent ensemble.
Voilà. Mais il a eu plein de casquettes dans sa vie. Il a été accompagnateur, pianiste au cabaret du Chat Noir. Et il a été grand ami de Debussy. Donc il avait beaucoup de cordes à son arc, ou en tout cas d'ouverture, malgré parfois une forme de rigidité qu'on lui attribuait. Il a été précurseur d'un certain courant dans la musique, qui est la musique minimaliste, et ça on le sait pas forcément non plus. Donc voilà, ça me fascinait assez, et je pense que c'était assez lié à cette période où on avait un peu moins peur de sortir des cases. On se rencontrait entre artistes de différents domaines. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu moins le cas. On fait de l'opéra, quoi. Et puis, voilà. Donc ça me plaisait de mettre tout ça dans un disque. Donc, je suis partie de Satie, de la musique de son époque, avec Debussy, Stravinsky, voilà, les grands contemporains et amis de Satie. Ses contemporains aussi au cabaret, Aristide Bruand.
Qui a écrit Le Chat Noir.
Voilà.
Et aussi, Tu ne manieras pas, mes tétons, qui ressemble à une chanson à boire.
Absolument, une chanson de troupe.
Oui.
Et après, quelque part, presque même la ligne directrice, c'était qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire qu'on a un cœur du répertoire qui a une cohérence temporelle, bien qu'on fasse aussi des petites parenthèses, comme avec Pierre-Jean de Véranger, qui est pour moi le précurseur de la chanson française, donc c'est bien avant Eric Satie. Mais quand on écoute, c'est absolument intemporel ce qu'il écrit. Et puis après, avec Poulenc, par exemple, ou Jeanne Taillefer, ou Georges Auric, qui ont composé évidemment bien plus tard, mais qui ont été les élèves d'Eric Satie.
Allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y. Allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y, chouchoute, chouchoute, allons-y.
Alors là, on entend justement un morceau de Satie, Allons-y, chochotte, avec cette légèreté caractéristique qu'on retrouve chez Satie, qui n'est jamais éloignée de la mélancolie. Vous avez aussi d'autres morceaux d'Eric Satie sur votre album, Julie Fuchs, dont trois descriptions automatiques sur un vaisseau, sur une lanterne, sur un casque. Et là, on est proche du surréalisme, parce qu'en fait, vous décrivez, c'est comme, on dirait, des descriptions de sous-titres pour les malentendants, comme celles qu'on peut trouver parfois pour les malvoyants sur certains films.
Oui, et je trouve ça assez rigolo de se dire que Satie se disait, bon, le pianiste, il va pas vraiment comprendre ou entendre ce que je veux dire, donc je vais lui expliquer avec des mots, parce que je suis pas sûre qu'avec ma musique, il comprenne.
Et vous dites toutes les didascalies.
Alors oui, sachant que c'est un petit pas de côté, parce que Satie aurait dit qu'il ne voulait pas qu'on prononce à voix haute ce qui est écrit. Mais moi, je suis l'esprit et pas la lettre, et Satie aimait bien qu'on suive pas les règles. Donc finalement, je me dis, je fais bien ce que je veux, et c'est aussi ça Eric Satie. Et puis c'est un disque, et puis il y a un petit côté ASMR que j'aime bien.
Oui, ASMR, oui. Sur votre album, Julie Fuchs, on alterne entre gaieté, par exemple avec des morceaux comme Le Fiacre de Léon Xanroff, très entraînant, des choses plus mélancoliques comme Ce n'est plus Lisette de Pierre-Jean de Béranger, où on dirait presque un air d'endeuillé, et ce duo de l'ouvreuse de l'opéra comique et de l'employé du bon marché d'Emmanuel Chabrier. Qui chante avec vous?
Lévi Seck-Capane, un ténor magnifique et un ténor vraiment rossinien que j'ai un petit peu essoré pour qu'il chante en français cette chose absolument inconnue. Il était adorable, il chantait à Bastille le Barbier de Séville la veille, il est venu le matin enregistrer, donc chapeau bas, parce que c'est une partition très compliquée avec beaucoup d'aigus, une espèce de yodel improbable que peu de ténors peuvent chanter. Et puis voilà, pour moi, c'était aussi non seulement un compositeur absolument contemporain d'Eric Satie, mais aussi un clin d'œil à la vie sociale et à ce qui se passait à Paris avec les grands, voilà, l'opéra comique, etc.
se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda.
Julie Fuchs, vous avez une passion, c'est le tango argentin. Vous l'avez surtout pratiqué à Barcelone. Et j'ai mis ce morceau de Tita Merello que vous avez choisi pour l'émission, C'est dice de mi, pour illustrer ce sujet. Je vous laisse la parole.
Oh là là, mais je serais intarissable. En fait, j'ai découvert le tango par la musique d'abord, en tant que violoniste, et en tant que mélomane, et puis aussi par mon appétit des musiques d'ailleurs, et tout ce qu'elles racontent sur les gens et les cultures. Et puis, j'ai toujours, à chaque fois que je voyais des gens danser, parce qu'on voit souvent des gens danser, non, dehors, ouais. À chaque fois, je me disais, oh, le jour, si un jour je pouvais avoir ce hobby-là, c'est-à-dire, je sors, je pars danser, et je serai la plus heureuse. Je me dis, mais c'était inatteignable pour moi, violoniste, éducation classique, faut prendre des cours, faut être bien sérieuse, faut avoir du temps, ce que je n'ai absolument pas. Et puis, un jour, j'étais à Barcelone en train de chanter Pélas et Mélisande, donc, pas la grande joie, ce répertoire.
Et puis c'était assez glauque dans voilà. Votre vie personnelle voilà. Aussi, vous l'avez raconté. Dans
donc,
un article.
Magnifique, mais je me suis dit, je vais commencer le tango, et Barcelone est une ville merveilleuse pour le tango, il y a une grande communauté argentine. J'ai commencé, j'ai plus pu m'arrêter, et voilà. Et ce qu'on vient d'écouter, c'est d'ailleurs plus précisément une milonga, qui est un style de tango plus chaloupé, plus populaire, et c'est aussi, j'ai choisi aussi ça parce que c'est une, ça serait, on pourrait dire, une des premières chansons féministes argentines où la chanteuse explique qu'elle peut bien faire ce qu'elle veut, que les gens parlent d'elle, mais elle s'en fiche. On peut dire qu'elle est moche, elle s'en fiche, elle fera bien ce qu'elle veut.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Un autre de vos choix musicaux, Julie Fuchs, Mercedes Sosa, Canción de las cosas simples, chanson des choses simples.
Oui, je sais pas. On reste en Argentine avec cette grande dame qui est Mercedes Sosa, cette chanson qui est peut-être pas la plus connue d'elle, mais les choses simples, quoi. C'est ce qu'on disait au début.
Oui, c'est vrai.
Le café au soleil, la vitamine D, quel bonheur. Et puis, ce qu'elle dit, c'est aussi, attention, l'amour passe et l'amour est dans un bout de pain sur une table partagée. Et au final, je crois, parce que je ne crois pas être encore au final de ma vie, mais malgré tout, déjà, je sens bien que, que les bonheurs qui restent, c'est le bout de pain partagé.
Mais il y a tant de pain qui vous attend.
Je sais dans le fond du fond que je ne suis pas, et que peut-être même personne dans le fond n'est abandonné définitivement. Donc j'y croirai toujours. Pour développer un tout petit peu sur la naissance d'un enfant, il n'y a rien de plus simple qu'un nouveau-né. Il n'y a rien de plus simple, mais il n'y a rien de plus obscur aussi. C'est le mystère des mystères. C'est l'Égypte à la maison. Vous avez l'Égypte à la maison. Qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, c'est toute la grandeur des légendes égyptiennes, toute la l'or des textes égyptiens, la manière dont ils considéraient la vie comme sacrée. Et aussi, ça rejoint ma passion de lire. Un nouveau-né, et il a quelque chose pour moi à voir avec les livres, parce que toute la vie demande à être lue, à être déchiffrée. Et il n'y a rien de plus indéchiffrable qu'un petit sourire en escargot d'un nouveau-né. Pour vraiment le décrire, je vous jure, je crois qu'il faudrait plusieurs bibliothèques. Vraiment, vraiment. Le travail de Champollion, à côté, c'est de la petite bière.
Christian Bobin, dans le grand atelier de Vincent Josse sur France Inter en 2022. Julie Fuchs, comme découverte pour les auditeurs, vous avez choisi son ouvrage « La folle allure ».
Bah oui, on est encore une fois dans l'émerveillement du simple et dans le divin en toute chose, dans le sacré en toute chose. La folle allure a cette particularité de m'avoir saisie en tant que aussi fan d'opéra. C'est-à-dire que je trouve que c'est une œuvre qui mérite d'être mise en musique, qui mérite d'être mise en opéra. C'est une œuvre très avec un rythme fou et un personnage magnifique.
La dernière de ces deux fois avait été bien près de m'être fatale. Car la mer m'ayant emporté ainsi qu'auparavant, elle me mit à terre, ou plutôt elle me jeta contre un quartier de roc. Alors je repris ma course, et je m'approchais tellement de la terre que la nouvelle vague, quoiqu'elle me traversât, ne m'engloutit point assez pour m'entraîner. Enfin, après un dernier effort, je parvins à la terre ferme, où, à ma grande satisfaction, je gravis les rochers escarpés du rivage, et m'assis sur l'herbe, délivré de toute atteinte de l'océan.
Extrait de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, lu par Christian Delmas sur France Culture en 61, que j'ai choisi de passer, Julie Fuchs, puisqu'au mois de décembre, vous chantiez le rôle d'Edwige dans Robinson Crusoe d'Offenbach au Théâtre des Champs-Élysées. Mais alors, non seulement vous jouiez Edwige, qui n'apparaît pas dans le roman, et deuxièmement, vous avez détesté ce livre.
Bah, c'est-à-dire que... Ouais, non, je ne l'ai pas trop aimé.
Vous êtes ennuyée?
Bah oui. Ça ne m'a pas inspiré beaucoup de grand-chose.
Très bien. Alors, en parlant d'inspiration, vous avez recommandé aussi la version muette de King Kong ou Le parapluie de Cherbourg de Catherine Deneuve.
Alors ça, c'était les références de Laurent Pelly, notre metteur en scène. Et j'aime bien quand les metteurs en scène ont des références précises parce que ça nous aide beaucoup. C'est très, voilà. Après, on brode par-dessus et on le fait nôtre. Mais effectivement, le côté expressionniste et j'ai pas envie de dire exagéré. Il y a quelque chose de faux dans l'exagération, mais c'est pas ça. Parce que ça doit être juste et c'est tout le sublime travail de Laurent Pelly que j'adore, c'est tout cette scène de à la fois danse, à la fois lutte, à la fois c'est du théâtre, quoi.
Julie Fuchs, du 28 mai au 14 juin, vous serez à l'Opéra de Paris dans Ercole à Mantes, où vous interpréterez le rôle de Giunone, c'est-à-dire Junon, la femme de Jupiter, tout simplement, mais en italien. C'était initialement une commande du cardinal Mazarin pour le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche, une commande adressée à Francesco Cavalli, mais là, on entend la partition de l'élève de Cavalli, qui est Antonia Bembo, une compositrice du XVIIIe siècle.
C'est ça. Et donc, on va la jouer pour la première fois dans une mise en scène. Donc, c'est quelque part une première mondiale.
De Nisha Jones.
Voilà, qui va être mise en scène par Nisha Jones, dirigée par...
Leonardo Garcia Larcón.
Le merveilleux Leonardo Garcia Larcón. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une compositrice pas extrêmement connue, hein, comme la plupart des compositrices, et qui a fui son mari, qui était violent, et qui s'est retrouvée voilà, à la cour de Louis XIV. Ce qui est intéressant pour mon personnage de Junon, à moi, parce que Junon, la protectrice du mariage, de l'union, des femmes, du coup, le symbole de la sororité, etc. Je trouve ça intéressant de savoir tout ça quand on va interpréter ce personnage.
Bah, surtout que l'histoire, c'est quand même Hercule qui convoite la fiancée de son fils, dont il a tué le père,
ouais.
Et alors qu'il est déjà marié.
C'est ça. Hercule étant le fils de Jupiter, donc mari de Junon, qu'il a eu avec sa maîtresse.
Vous aggravez son cas, c'est n'importe quoi. Alors attends, je réfléchis. Peut-être pas Ave Maria vu le temps qui reste. Peut-être Dominique Blanc. Ok, Dominique Blanc.
Je crois que c'est vraiment le métier que j'ai choisi, le métier de comédienne, qui a fait que je me suis totalement affranchie de toutes ces choses qui existent encore, bien sûr, nous le savons, par rapport au corps féminin et par rapport au féminin tout court. Ça, je pense que le métier que j'ai choisi, ça a vraiment été une grande prise de liberté. C'est une passion aussi, et je m'en félicite tous les jours. Vraiment, ça m'a aidé à m'affranchir.
Julie Fuchs, je sais qu'en littérature, vous aimez L'être un jeune poète de Rilke, L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Et pour les films, vous aimez surtout les actrices, notamment Juliette Binoche, Meryl Streep ou Dominique Blanc, qu'on entend dans l'émission en 2023. Alors la question est la suivante, et elle clôt souvent les entretiens de la 20e heure. Auriez-vous un film ou un livre à recommander aux auditeurs que vous aimez de n'importe quelle époque ?
C'est très difficile, évidemment, comme question, et je vais aller à mon instinct, c'est-à-dire le film qui, je pense, m'a fait aimer le cinéma. Donc, c'est une question aussi de chronologie. Hein. C'est Chat noir, chat blanc, de Kurosawa.
Ah oui ! Avec voilà. Des gens en lévitation.
Et parce qu'il est tellement jouissif, joyeux, absurde.
Exubérant.
La musique qui joue une grande part.
Voilà, donc, ouais. Mm. Merci beaucoup, Julie Fuchs.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Bah pour moi aussi. Votre disque « Je te veux » est paru chez Sony Classical. Le public pourra vous entendre interpréter les airs qu'il compose le 27 mars au Conservatoire d'Orléans, le 26 juillet lors du Festival des musicales de la Route de Cézanne et le 21 août lors du Festival Nos Jours Heureux que vous avez créé à Saint-Bonnet-du-Gard. Du 28 mai au 14 juin, vous interpréterez Junon à l'Opéra de Paris dans Hercole Amante d'Antonia Bembo, mise en scène par Nisha Jones. L'opéra sera filmé en juin, puis retransmis ultérieurement sur Arte. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Jérôme Ragano.